Alors, Jérémie 32, j'ai décidé un peu tardivement de prêcher sur ce passage. Et si vous n'avez pas compris grand-chose à la lecture tout à l'heure, au texte qui a été lu, ce n'est pas grave. Bah, c'est vrai que c'est un passage assez un peu obscur. Et j'espère qu'après quelques instants maintenant, on va pouvoir le comprendre un peu mieux et voir à quel point il est extrêmement important pour nous. Et à quel point il parle vraiment dans notre situation actuelle, ce qui apparaît pas au premier abord. Juste avant de commencer, je vous propose encore de prier ensemble. Seigneur grand Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes de passer ensemble, maintenant ces instants que nous pouvons passer ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que ces instants, nous les passons dans ta présence. Parce que, quel que soit notre nombre, tu es ici parmi nous. Et tu as un réel désir de te révéler par ta voix puissante, Seigneur. Ta voix fait trembler toutes choses. Ta voix met nos cœurs à nu, elle nous fait fondre. Et Seigneur, c'est réellement notre désir ce matin que tu te révèles dans toute ta puissance. Sinon, nous perdons notre temps ici. Seigneur, parle avec puissance. Tes serviteurs t'écoutent. Amen. J'ai un but assez clair ce matin. J'aimerais essayer de vous convaincre d'une chose. J'aimerais essayer de vous convaincre qu'il est possible d'acheter de l'espoir. Je vous convainc qu'il est possible d'acheter de l'espoir. Alors, ce n'est pas un concept que j'invente. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui, semaine après semaine, vont au bureau de tabac pour acheter un billet de loterie. Et en fait, ils savent très bien qu'ils n'ont à peu près aucune chance de gagner quoi que ce soit. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent pour quelques euros d'espoir un peu. Hein. C'est quelque chose qui va les tirer dans les semaines à venir. C'est un peu... ils achètent de l'espoir, voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas essayer de vous convaincre d'aller au bureau de tabac en sortant d'ici, mais j'aimerais essayer de vous montrer qu'il est possible, en tant que chrétien, d'acheter de l'espoir. Et vous allez voir un peu plus tard, j'espère, ce que je veux dire par là. Mais tout d'abord, je propose de commencer en réfléchissant juste 2 minutes. On va faire rapidement, mais réfléchir à la situation dans laquelle se trouve Jérémie ici. Regardez le verset 2. L'armée du roi de Babylone faisait alors le siège de Jérusalem et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui se trouvait dans le palais du roi de Juda. Voilà, pendant des années et des années, Jérémie avait été fidèle en tant que prophète de l'Éternel, il avait été fidèle à Dieu, il avait proclamé la parole de Dieu avec fidélité et donc il avait dénoncé les péchés du peuple. Il avait annoncé aussi la venue du jugement de Dieu sur le peuple, à tel point qu'il est maintenant en prison à cause de son message, et l'ennemi est aux portes de Jérusalem, en train de cogner contre les murs de Jérusalem. Si vous voulez, le jugement qu'il avait annoncé, il est en train de s'abattre sur le peuple et sur lui en même temps, puisqu'il est coincé dans la prison à Jérusalem. Et je pense qu'on peut s'imaginer que Jérémie, depuis sa prison, il entend les cris de guerre, il voit la poussière qui s'élève au passage de l'armée de babylonienne, c'est là quoi, c'est vraiment, ça va arriver dans les jours, les semaines peut-être qui suivent, les murs vont tomber et la ville va être prise. Et c'est dans cette situation-là que son cousin vient lui rendre visite. Alors, moi, à chaque fois que je lis l'histoire, je ne peux pas m'empêcher de rigoler parce que c'est comme dans toutes les familles, non ? On a tous un cousin un peu éloigné comme ça qui débarque toujours au mauvais moment pour nous annoncer une catastrophe. Alors, en tout cas, c'est vrai dans ma famille. Et c'est le cas pour Jérémie. Regardez le verset 8. Au verset 8, on voit effectivement Hanamel, le fils de mon oncle, donc son cousin, est venu me trouver dans la cour de la prison conformément à la parole de l'Éternel, et il m'a dit « Je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc !» Et là, c'est Jérémie qui dit « J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel, j'ai donc acheté le champ. » J'ai donc acheté le champ. Vous savez sûrement qu'il y avait cette pratique en Juda à l'époque que si vous aviez des difficultés financières, si vous aviez des dettes, vous pouviez aller vers quelqu'un de votre parenté pour vendre votre propriété. Et ce parent était peut-être pas obligé, mais en tout cas encouragé de racheter cette propriété dans le but que ça reste dans la famille. C'était ça le but au final. Et c'est ce qui se passe ici. Jérémie reconnaît que c'est l'Éternel qui lui parle au travers de ce cousin. Et donc, il achète le champ. Qui ferait une chose pareille? Pourquoi? Essayez de réfléchir une seconde. La ville est entourée par une armée ennemie. Et le champ qui se trouve donc forcément en dehors de la ville, quelque part là dans les collines en Judée, il est déjà entre les mains de l'ennemi. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien qui est là. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien amener une personne à acheter un champ dans des circonstances comme ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jérémie achète ce champ dans ces circonstances-là? Je ne sais pas si vous avez remarqué pendant la lecture tout à l'heure, on a la réponse à cette question au verset 15. Regardez le verset 15. C'est Jérémie lui-même qui nous donne la réponse à cette question. Voilà ce qu'il dit. « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Je me souviens d'un jour au lycée, où c'est mon prof, je crois que c'était mon prof d'italien qui est entré dans la classe. Il nous a donné à chacun une feuille de papier vierge. Et puis il nous a demandé à tous d'écrire dessus comment est-ce qu'on pensait que la vie serait pour nous lorsqu'on aurait 30 ans. Alors bon, c'était un exercice d'italien hein, plus qu'autre chose, mais donc on devait s'imaginer, bon, est-ce que je serais marié, dans quel pays j'habiterais, quel travail je ferais, enfin ce genre de choses. On devait simplement, voilà, j'ai écrit quelque chose, je sais pas quoi, et puis j'ai plié cette feuille, j'ai pris cette feuille, je l'ai mis dans une enveloppe, j'ai fermé l'enveloppe. Et puis après, sur l'enveloppe, j'ai marqué la date, quoi, l'année, quand j'aurai 30 ans, quand je pourrai rouvrir cette enveloppe. Puis j'ai pris l'enveloppe, je l'ai ramenée avec moi à la maison, je l'ai mis dans un tiroir, et puis je l'ai mis là, en lieu sûr, jusqu'au jour où j'aurai 30 ans, en fait, et où je pourrai ouvrir de nouveau cette lettre et savoir toutes les bêtises que j'ai pu écrire à l'époque. Et vous voyez, c'est exactement ce que fait Jérémie, en fait, ici. Je passe un peu sur les détails, mais il achète ce champ, il fait un contrat, il le signe, il le scelle devant témoin pour être sûr que tout le monde sera bien au courant de la transaction, qu'il a acheté ce champ. Puis ensuite, il prend le contrat et puis il va le mettre dans un vase de terre pour le garder en lieu sûr jusqu'à bien plus tard, lorsque le peuple reviendra d'exil, comme Dieu l'avait promis. Et que tout d'un coup, le peuple va recommencer à acheter et à vendre des champs, des maisons, des vignes, etc. Si vous voulez, il fait tout ça comme un signe qu'un jour, la vie telle qu'elle devrait être recommencera. C'est un signe. J'espère en un jour meilleur. Je crois que mon peuple va revenir et qu'un jour, mon peuple recommencera à vivre dans ce territoire. Et donc, ce que je fais maintenant, mon peuple le fera encore ici même. Vous voyez, je crois que ce que Jérémie est en train de nous dire, et il me semble que c'est un peu la leçon principale du passage ici, c'est que nous sommes tous appelés à agir à la lumière des promesses de Dieu, avec l'espérance certaine qu'elles s'accompliront. On est appelé à agir à la lumière des promesses de Dieu avec l'espérance certaine qu'elles s'accompliront. Si on dit ça dans l'autre sens, le fait de croire que les promesses de Dieu vont s'accomplir, ça devrait nous amener à agir à la lumière de cette réalité. Et ça me semble être vraiment le message principal qu'on voit ici. Mais il y a trois choses qu'on apprend de ces 15 premiers versets, de cette histoire d'achat d'un champ. Et puis on va regarder la suite du chapitre. Vous allez voir, il y a une prière de Jérémie et puis la réponse de Dieu à la prière. Et il y a trois choses qu'il me semble qu'on apprend de ce chapitre. Tout d'abord, il y a un espoir qui est à acheter. Je vais expliquer un peu plus du coup cette idée-là. Il y a un espoir qui est à acheter. Il y a un espoir lorsque nous sommes assiégés. Et finalement, il y a un espoir qui ne sera pas déçu. Ça, c'est les trois parties du message ce matin. Tout d'abord, il y a un espoir qui est à acheter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux personnages un peu dans l'histoire. On a Jérémie, on a parlé de Jérémie, il a acheté ce champ. Puis un autre personnage, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un personnage qui est important. C'est Sédécias, le roi. Et il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, bah, en tant que roi, il représente en fait l'entier du peuple. Il symbolise un peu toute la nation. Je vous propose de juste venir avec moi en Jérémie 37. Vous tournez quelques pages. Jérémie 37, les versets 16 et 17. Une chose qui est importante de savoir par rapport au livre de Jérémie, c'est que ce n'est pas chronologique. Donc en fait, ce qu'on lit maintenant, ça s'est passé avant notre histoire, juste pour que pas que vous soyez étonnés. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avant, hein. Jérémie 37, verset 16. Ainsi, Jérémie rejoignit les oubliettes et les cachots, et il y resta longtemps. Et donc là, on apprend que Jérémie a été mis en prison, où il est toujours au chapitre 32. Verset 17, le roi Sédécias envoya quelqu'un chercher Jérémie pour l'interroger en secret dans son palais. Il dit, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel pour moi? Jérémie répondit par l'affirmative avant d'ajouter, tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Vous voyez, Sédécias ici, il avait entendu la parole de l'Éternel pour lui. Mais est-ce que ça a changé quelque chose, si on revient au chapitre 32? Est-ce que quelque chose a changé? Non. La situation est toujours la même. Jérémie est toujours en prison. Et puis, la situation, on pourrait dire, a même empiré. On est bien plus loin dans le problème. Et la ville est assiégée. Et effectivement, Sédécias se rend bien compte que le jugement est sur le point de tomber. Il a entendu la parole de l'Éternel, mais il n'a pas écouté. Il entend, mais il reste sourd à la parole de l'Éternel. Si vous revenez au chapitre 32, on apprend une autre chose sur Sédécias. Regardez au chapitre 32, les versets 3 et 4. Au verset 3, Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer, donc Jérémie avait fait enfermer Jérémie en lui adressant ce reproche. Et puis là, il explique donc pourquoi est-ce qu'il a mis Jérémie en prison, en disant, pourquoi prophétises-tu comme tu le fais? En effet, tu affirmes, voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone et il s'en emparera. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Babyloniens, et c'est là que ça devient intéressant, mais il est certain qu'il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il devra lui parler en face et le voir de ses yeux. Il devra lui parler en face et le voir de ses yeux. C'est intéressant parce que c'est très ironique en fait ce que Jérémie dit ici. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire, c'est raconté dans le livre de Deux Rois. On sait que cette rencontre dont parle Jérémie a vraiment eu lieu. En fait, Sédécias, voyant la ville assiégée, il a décidé de faire quoi? Il a attendu la nuit, il a fait une brèche dans la muraille, il a pris tous les hommes d'armes, tous les soldats avec lui, puis il est parti en laissant simplement les habitants à la merci des Babyloniens comme un lâche. Mais il s'est fait rattraper. Et il s'est effectivement retrouvé face au roi de Babylone. Et la dernière chose qu'il a vue avec ses yeux, c'était ses fils mis à mort, égorgés devant lui. Et puis ensuite, ses yeux ont été percés et il est resté aveugle pour le reste de sa vie. Il entend, mais il reste sourd. Il voit, mais il reste aveugle. Et il y a encore une chose qu'on sait sur lui, c'est par rapport à son nom. Est-ce que vous savez ce que son nom veut dire, Sédécias? Sédécia, ça veut dire l'Éternel est notre justice. L'Éternel est notre justice. Et là aussi, c'est extrêmement ironique parce qu'il n'y a aucune justice qui transparaît ni dans sa vie, ni dans celle du peuple. Et en fait, il symbolise l'échec de toute la nation. Et c'est vraiment l'évaluation que Dieu lui-même fait du peuple. Si vous regardez le verset 33, lorsque Dieu après s'adresse à Jérémie, verset 33, en parlant du peuple de Juda, il dit: Ils m'ont tourné le dos, ils ont arrêté de me regarder en face, pourtant on les a enseignés encore et encore, inlassablement, mais ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Voilà. Ça, c'est le monde dans lequel Jérémie vit. Un monde sourd à la parole de Dieu et aveugle dans son péché. Mais on peut dire que Jérémie vit en fait dans deux mondes à la fois. Il vit dans deux royaumes à la fois. Il vit dans un royaume qui est en train de mourir. C'est le royaume de Juda, qui est symbolisé par ce roi sourd et aveugle. C'est un royaume qui est en train de mourir parce que les murs vont tomber. Le royaume de Juda va tomber. Et c'est le royaume dans lequel Jérémie vit. On pourrait dire qu'en même temps, il vit dans un royaume en devenir. C'est le royaume qui est symbolisé là plutôt par le contrat de vente qui est dans ce pot en terre. Un royaume à venir où des champs, des maisons, des vignes vont être achetées et vendues et où la vie va recommencer. Vous voyez, il vit dans deux mondes, deux royaumes, on pourrait dire, à la fois. Et ce qu'il fait, c'est qu'il mise tout ce qu'il a sur le futur royaume. Il achète de l'espoir, dans le sens où, de par le fait qu'il achète ce champ, il démontre la certitude de son espoir qu'un jour meilleur viendra. Non seulement il croit que la promesse va s'accomplir, mais il agit à la lumière de cette promesse. Dans ce sens-là, il achète de l'espoir. Alors en quoi est-ce que ça nous concerne? Parce que bon, un champ près de Jérusalem, ça nous intéresse assez peu. Qu'est-ce que ça veut tout dire pour nous? Le truc, c'est que nous aussi, on vit dans deux mondes à la fois, dans deux royaumes à la fois. On vit tous dans un royaume qui est en train de mourir. C'est un monde sourd à la parole de Dieu et aveugle dans son péché. Un monde, Paul nous dit en 1 Corinthiens 7, 31, que ce monde, dans sa forme présente, passe. Il est sur le point de disparaître. Voilà, ça c'est le monde dans lequel on vit tous. Le royaume de ce monde. Et puis on pourrait dire, et on peut le dire, qu'on vit dans un royaume qui est un royaume en devenir. Pour tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, on vit dans un royaume en devenir, le royaume des cieux. Pensez à ça. Christ a entendu les cris de son peuple. Jésus-Christ a vu les souffrances de son peuple. Et plutôt que d'attendre la nuit et de s'enfuir, à l'image de Sédécias, dans la nuit la plus profonde, il est allé jusqu'au bout pour nous délivrer de notre surdité, de notre aveuglement, et pour proclamer dans ce monde-là, ce monde mourant, la venue de son royaume de justice et de paix. Et vous voyez, c'est lui le roi, en fait, qu'on peut appeler l'Éternel est notre justice. Parce que par un acte de justice, il nous a rendus justes, il nous a transportés dans son royaume de justice et de paix. Et donc, pour nous qui avons accepté le règne de ce roi, l'Éternel est notre justice. On appartient déjà au royaume de Dieu, mais on vit toujours dans ce royaume en train de mourir, n'est-ce pas? Et de la même manière que Jérémie a acheté ce champ comme un signe de ce qui serait la pratique dans le futur royaume, Nous aussi, on est appelés à vivre, à acheter de l'espoir, pour garder la même expression, en vivant ici et maintenant, dans ce monde mourant, en pratiquant la présence du royaume de Dieu dans ce monde mourant, dans ce royaume-là. Alors, on peut devenir un peu plus pratique, bien sûr, parce que là, ça reste encore assez théorique. On peut penser à toutes les choses que nous faisons par lesquelles on démontre qu'on prend les promesses de Dieu au sérieux. On peut penser à beaucoup de choses, mais le fait, par exemple, de décider de se rattacher à une petite église comme celle-là, de venir dans ce contexte-là et de devoir être, on va dire, proactif et de chercher à amener la parole de Dieu à des gens autour qui n'ont pas envie d'entendre ce message. C'est alors qu'on pourrait très bien se satisfaire de se joindre à une grande église confortablement, etc. C'est une manière par laquelle on démontre que on croit en la promesse que Dieu aime les petits commencements et qu'il se plaît à démontrer sa puissance dans la faiblesse. On peut penser à J'avais pensé particulièrement à nos amis qui ont des problèmes au verger, quand on passe par des temps d'épreuve. Et qu'on doit apprendre à accepter les circonstances par lesquelles on passe, les temps de difficulté comme venant de la main de Dieu, et d'apprendre à ne pas être amer, à ne pas être en révolte contre Dieu. En faisant cela, on démontre qu'on prend là aussi la parole de Dieu au sérieux, en sachant que chaque chose qu'il met dans notre vie sont là pour nous faire grandir, nous attirer à lui, nous transformer à l'image de Christ, etc. On pourrait parler de situations de couple, on peut parler de l'éducation des enfants, quand on éduque les enfants dans les voies de Dieu, avec tous les sacrifices que ça implique. Là aussi, on démontre que ce qui compte pour nous, c'est pas tellement leur réussite dans ce monde-là, mais c'est leur destinée éternelle. Et on peut dire la même chose par rapport à notre vie personnelle de foi, de marche avec Dieu. Lorsqu'on décide de prendre le péché au sérieux dans notre vie et de chercher à le mettre à mort, avec là aussi les luttes que ça implique, dans le but de vivre avec sainteté devant Dieu, là aussi on montre qu'on prend au sérieux cette réalité, cette promesse que Dieu nous fait, qu'il nous préserve jusqu'au dernier jour pour un but bien précis, qui est celui d'être pur et sans défaut pour lui. Oui, dans toutes ces situations-là, et bien sûr on pourrait faire la liste, et vous pouvez le faire pour vous-même certainement, au même titre que Jérémie, on est en train d'acheter de l'espoir. On pourrait utiliser une expression du Nouveau Testament, j'ai l'expression en anglais maintenant, store up treasures in heaven,
Amasser des trésors au
amasser
ciel.
des trésors dans le ciel, pardon, merci, amasser des trésors dans le ciel. Voilà, ça c'est une expression du Nouveau Testament qui nous aide un peu à comprendre ce que je voulais dire aussi avec cette expression, acheter de l'espoir, en pratiquant en fait la présence du royaume de Dieu dans ce monde mourant. Et en fait, c'est ce qu'on fait maintenant aussi. Si on réfléchit, lorsqu'on se rassemble semaine après semaine, dimanche après dimanche, pour louer Dieu, qu'est-ce qu'on fait quand on loue Dieu? On réclame pour Dieu l'honneur que ce monde veut. On réclame pour Dieu l'affection de nos cœurs que ce monde veut pour lui-même. On réclame pour Dieu et son royaume ce que ce monde veut de nous. Et pourquoi? On va poser la question qu'on a posée tout à l'heure par rapport à Jérémie. Pourquoi il a acheté ce champ en fait? Et nous, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que nous vivons à la lumière des promesses de Dieu, à la lumière de l'éternité. Et ça peut parfois nous sembler être une aussi mauvaise affaire que l'achat d'un champ par Jérémie, n'est-ce pas? Ça peut parfois nous sembler être une aussi mauvaise affaire que d'acheter un champ comme dans le cas de Jérémie. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est le deuxième point. Vous allez voir maintenant, les deux derniers points sont plus rapides. Il y a un espoir lorsque nous sommes assiégés. Ce que j'aime beaucoup avec cette histoire de Jérémie, c'est qu'elle est très réaliste. Jérémie, il nous ressemble beaucoup. il a fait un peu ce grand pas de foi, un peu contre la culture. Alors que pour tous les Israélites du moment, il y avait la ruine, la défaite dans leurs esprits. Lui, il a regardé au-delà des circonstances présentes, et puis il a acheté ce champ, il a tout misé sur la promesse d'un meilleur futur. Et puis il prie. On l'a pas lu tout à l'heure, mais si vous regardez au verset 16, Jérémie se met à prier. Regardez le verset 16. Après avoir remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nerija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Seigneur Éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Et puis, cette prière, ça nous permet d'avoir un aperçu dans ses luttes intérieures, et ça se voit particulièrement à la fin de sa prière. Regardez les versets 24 à 25, le ton change un petit peu. C'est toujours Jérémie donc qui prie au verset 24. Voici qu'on construit des remblais contre la ville pour s'en emparer. Jérusalem est livrée aux Babyloniens qui l'attaquent, livrée à l'épée, à la famine, à la peste. Ce que tu as annoncé arrive et tu le vois bien. Pourtant, Seigneur éternel, tu m'as ordonné de m'acheter un champ. Pourtant, Seigneur éternel, tu m'as ordonné. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. La ville est assiégée. Pourtant, Seigneur, tu m'as dit, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que vraiment j'ai eu raison d'écouter, de croire et d'obéir à ce que tu m'as dit? Pourtant, tu m'as dit. Ouais, il me semble que Jérémie, il est littéralement assiégé par une armée, mais on peut dire qu'il est vraiment assiégé aussi par des doutes, des craintes ici. Pour lui, ça semble tout d'un coup, il est un peu perdu en se demandant, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai eu raison d'écouter la parole de Dieu, de la croire et d'y obéir? Et je crois qu'on a tous les mêmes luttes. On a tous les mêmes luttes lorsqu'on est pris dans une lutte incessante contre notre péché et que jour après jour, semaine après semaine, on retombe dans les mêmes travers. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de chercher à vivre la sainteté pour Dieu. Lorsqu'on sacrifie la meilleure part de sa vie pour éduquer ses enfants dans la foi et que on les voit se détourner de la parole de Dieu, ne pas écouter la voix de Dieu, tu m'as ordonné, Seigneur, pourtant. Lorsque, malgré nos désirs d'honorer Dieu dans notre vie d'église et de en cherchant sa puissance dans notre faiblesse, en acceptant le fait qu'on est une église petite et fragile, etc., et en s'attendant à voir ses moyens à l'œuvre et pas nos moyens, voir sa puissance à l'œuvre dans notre faiblesse, lorsqu'on fait tout ça et que malgré tout, on ne voit pas de résultat, que malgré nos prières, l'église ne grandit pas, ou lorsqu'on passe par des temps d'épreuve, que malgré notre désir de glorifier Dieu, en acceptant ces circonstances comme venant de sa main, en cherchant à les accepter avec joie et pas avec amertume ou dans la révolte, et que malgré ça, les épreuves continuent et que la situation peut-être même empire, lorsqu'on sacrifie un avenir confortable et tout tracé pour le service de Dieu, et qu'on se retrouve après dans des situations inconfortables, d'incertitude, de doute. Est-ce que vraiment j'ai eu raison d'écouter, de croire et d'obéir? Seigneur, tu m'as dit, pourtant. Est-ce que c'est pas vrai que parfois, de vivre maintenant à la lumière des promesses de Dieu, de vivre maintenant à la lumière de l'éternité, ça peut nous sembler être une aussi mauvaise affaire que l'achat d'un champ par Jérémie? Est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, dans mon expérience, ça l'est. À tel point que on peut vivre parfois notre foi comme si c'était de faire un peu une faveur à Dieu, de finalement de croire ses promesses et d'agir à la lumière de ses promesses, comme c'était de faire une faveur à Dieu que de croire sa parole et de passer notre vie à bâtir son royaume plutôt que le nôtre, comme si Au final, Dieu nous était un peu redevable, parce qu'au fond, c'est difficile de vivre une vie ici-bas à la lumière de l'éternité. Si vous arrivez un peu à suivre ce que je dis maintenant, regardez maintenant la réponse de Dieu au verset 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Jérémie, j'ai créé ce monde en un souffle. Je soutiens ce monde par la puissance de ma parole. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Puis regardez le verset 36 à 38 maintenant. Verset 36. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'intention de cette ville, que vous présentez comme livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, la famine et la peste. Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. C'est la dernière chose que j'aimerais qu'on voit ensemble maintenant. Il y a un espoir qui ne sera pas déçu, c'est la fin. Il nous reste quelques minutes, hein, c'est vraiment un peu la conclusion. Il y a un espoir qui ne sera pas déçu. Si on réfléchit un peu à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont été unis par la foi à ce roi, l'Éternel est notre justice. On a cet espoir d'un royaume en devenir, un royaume, le royaume de Dieu, un royaume qui s'est déjà approché, auquel nous appartenons déjà, mais un royaume qui, dans un sens, est toujours en devenir. L'espoir qu'on a en Christ, c'est l'espoir futur du règne futur, incontesté, illimité, incontestable de Dieu, un règne reconnu par tous. Ça, c'est notre espoir. Et on a vu juste maintenant que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? Parce que il y a des choses qui sont trop difficiles pour moi. Qu'en est-il de vous? Peut-être que si vous regardez déjà à la semaine qui vient, aux semaines qui viennent, vous savez qu'il y a des choses qui viennent qui vont être trop difficiles pour vous. Peut-être même que vous êtes arrivé à un stade dans votre vie avec Dieu où tout vous semble trop difficile. Et donc il me semble que cette dernière question, elle est importante. Comment pouvons-nous être sûrs que nous tiendrons ferme dans cette espérance? Comment est-ce qu'on peut être sûr que nous continuerons d'espérer fermement, et non seulement d'espérer, mais d'agir à la lumière de notre espérance, d'agir à la lumière des promesses de Dieu? Eh bien, la réponse à cette question, elle se trouve toujours en Jérémie 32, au verset 40 et 41. C'est toujours Dieu qui parle au verset 40, et voilà ce qu'il dit. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux, mais je leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu fait la promesse d'une alliance éternelle ici. Cette alliance a été inaugurée en Christ. Et donc pour nous qui vivons de l'autre côté de la croix, on sait que ce qui était simplement sous la forme d'une promesse pour Jérémie, c'est une réalité pour nous maintenant. Grâce au sang de la nouvelle alliance, de l'alliance éternelle en Christ, et par l'Esprit qui nous a été donné comme la garantie de notre héritage au ciel, on peut être sûr que le verset 41, il est vrai pour nous. On peut être sûr que le verset 41 est vrai pour nous. Je relis encore une fois. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Et je les enracinerai vraiment dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu veut nous faire du bien parce qu'il y prend plaisir. Il se réjouit de tout son cœur et de toute son âme de nous faire du bien. Alors bien sûr, on sait que ça ne veut pas dire que la vie sera facile et sans difficulté, parce que on connaît ce passage dans Romains 8 qui dit que toute chose est pour le bien de ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Et on sait bien que ce plan, c'est d'être rendu conforme à Christ, c'est d'être amené à la parfaite maturité, et ça va passer parfois par des temps d'épreuve, des temps de difficulté. Et donc la vie d'un citoyen des cieux, c'est pas une vie toute faite de facilité, de tranquillité, etc. Mais Dieu prend plaisir à nous faire du bien en nous conduisant dans la voie qui mène à la vie. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer le règne incontesté et incontestable de celui qui prend plaisir à nous faire du bien? Eh bien, ça, c'est notre espoir. Et combien sombre, combien difficile que soit le chemin, nous savons que notre espoir ne sera pas déçu parce que Dieu s'engage de tout son cœur et de toute son âme à nous faire du bien. Et donc, on peut, avec un zèle renouvelé, j'espère, agir à la lumière des promesses de Dieu avec l'espérance certaine qu'elles s'accompliront. J'aimerais juste terminer en vous lisant un verset dans l'Apocalypse, Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait: Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Amen.
Merci beaucoup, Joël. Cette parole est bienfaisante. Je suis content d'être là aujourd'hui. Nous allons louer le Seigneur pour ce que nous avons entendu. Et on va essayer de chanter ce chant qui parle aussi de confiance, d'espérance. Et ensuite, nous passerons un moment dans la prière pour répondre plus individuellement à ce que nous avons entendu. Donc c'était le numéro 316, celui qui met en Jésus. Et Caroline va jouer une fois la mélodie encore. Vous voyez que 316 dans le recueil.
Par la foi, mon Rédempteur,
Satan veut te troubler, enlever ton espérance. Ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus vainqueur. Par la foi je me sauverai, en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai, en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi nous rédemptons, le rendons plus que vainqueur. Sentez-vous libre de prier.
Notre plus cher désir, notre plus grande requête, c'est que tu nous donnes, que tu allumes en nous cette foi qui puisse nous faire mouvoir en avant contre les apparences que nous présente le monde d'une défaite et voir au-delà du voile ton triomphe, ta victoire et que tu nous... Vraiment que tu allumes en nous, ce, que tu nous lèves nos yeux au-delà de cet horizon très terrestre et que tu nous fasses considérer les choses invisibles comme étant plus réelles que les choses visibles. Mets en nous cette foi, Seigneur, dont nous avons vraiment besoin. Amen.
Oui.
Notre grand Dieu, que tu es bon envers nous, et quelle espérance nous avons de vivre dans la main du Dieu qui prend plaisir à nous faire du bien. Seigneur, ta bonté est incroyable et nous avons peine à y croire. Nous te louons, Seigneur, pour ceci. Et nous te demandons de nous aider chaque jour à marcher dans tes promesses, en cette espérance et avoir le futur glorieux devant nos yeux, Seigneur, de ne pas juste voir cette terre et nos péchés, mais à regarder vers toi et à regarder vers ce qui va sûrement arriver. Amen.
Seigneur, merci pour tes promesses. Tu nous as donné plein de promesses pour te connaître plus et pour entrer dans cette pleine espérance en s'appuyant dessus. Ô Seigneur, aide-nous parce que nous sommes tellement contraintes à s'appuyer sur nous-mêmes. Et merci pour cette belle image. Cette histoire scellée dans la réalité d'un homme qui a eu la foi de s'appuyer sur tes promesses et sur toi. Ô Seigneur, garde cette image dans nos cœurs Aide-nous à mettre en pratique ce qu'on a entendu aujourd'hui. Aide-nous à vivre les vies de prière où on s'appuie sur tes promesses. Et donne-nous, Seigneur, une foi qui te glorifie. Au nom de Jésus.
Nous te louons, grand Dieu, pour tes captivités, pour tes prisons dans lesquelles tu nous mets, pour tes jugements qui sont certainement justes envers une race pécheresse. Mais au-delà, nous te bénissons ce matin ensemble, ô Dieu, de ce que par ta grâce tu nous donnes un avenir qui n'a rien à voir avec cette vie gâchée dans ce monde perdu. Nous te louons de ce que l'avenir est tellement différent, tellement glorieux, que nous luttons, ô Dieu, toute notre vie pour nous emparer et pour vivre à la lumière de ce qui vient. Que ton espérance est brillante et glorieuse comme toi. Nous te louons, car dans cette espérance, nous te voyons toi-même. Tu es notre justice. Comme Jérémie, nous sommes souvent dans le doute, dans la fragilité de notre péché, dans toutes sortes de choses. Mais tu fais ce que tu as promis, et à toi la gloire. Nous nous remettons à toi pour l'avenir, Seigneur, que nous puissions vraiment vivre cette espérance de manière vraiment croissante. Entends-nous, Seigneur, nous voulons vraiment faire affaire avec toi et ne pas entendre simplement et aller oublier, mais fais-nous, Seigneur, par ta fidélité, grandir dans l'espérance et que cette espérance nous pousse à faire des actions qui sont folles pour ce monde, mais tout à fait logique pour toi. Nous nous remettons à toi pour cette journée. Bénis-nous, Seigneur, et que tu puissions prendre plaisir en nous, car nous regardons vers toi.